Comme Sylvain l'a dit, nous, je continue la prédication sur la série de l'épître de Jean, en Jean. Et aujourd'hui, nous lirons, nous verrons ensemble les premiers chapitres de 1 Jean, les versets 5 à 10. Je voulais juste faire un petit rappel du contexte dans lequel cette épître a été écrite par l'apôtre Jean. Donc cette lettre s'adresse à des chrétiens qui sont troublés par la prédication des enseignements des gens qui enseignent des erreurs. Ils nient l'humanité de Jésus, ils minimisent la gravité du péché et ses conséquences sur la relation avec Dieu, et ils méprisent également les exigences de la morale chrétienne. Jean écrit donc cette épître pour, d'une part, rétablir la vérité sur Jésus-Christ, qui est bien le Fils de Dieu, et rappeler d'où venait l'autorité du message qu'ils avaient entendu et qu'il a annoncé avec les autres apôtres. Et Jean s'attelle, dans les versets qu'on va lire, à dénoncer les faux raisonnements, ceux qui subsistaient encore dans l'Église. Et la première réponse qu'il adresse à ceux qui minimisent le péché et que Dieu est lumière. Et c'est le thème de la prédication aujourd'hui, Dieu est lumière. Ben, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire ensemble. Bon, pour ceux qui veulent suivre, peuvent suivre également à l'écran. 1 Jean 1, versets 5 à 10, et je lis dans la version 2:21. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Je vous propose, sur la base de ce texte, de voir trois points. Le premier point qui découle du thème de la prédication, Dieu est lumière. Le second, que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Et le troisième, la vie dans la lumière. Dieu est lumière. La lumière est ce qui éclaire et ce qui rend visible les choses. Elle est produite naturellement, comme c'est le cas aujourd'hui, par le soleil, le jour, et la nuit, par la lune, mais avec des degrés d'illumination qui sont différents. Nous serons tous d'accord sur les vertus, les bienfaits de la lumière. Elle est importante et capitale dans le fonctionnement de notre monde, de l'écosystème. Elle joue un rôle très important dans la photosynthèse notamment. Bon, je n'irai pas plus loin pour ça, je laisserai ça à Nathalie qui pourra vous en dire davantage. Mais j'ai retrouvé sur Internet 7 bienfaits de la lumière qui sont mentionnés par les scientifiques. Bon, la source, c'est Science et Avenir. C'est 7 bienfaits qui sont là. Le premier, dit-on, que la lumière, elle sert où elle aide à fortifier les os en favorisant la vitamine D qui fixe à la fois le calcium et le phosphore sur les os. Alors rassurez-vous, je ne maîtrise pas toutes ces choses, ça ne vient pas de moi. Ça sert également à réguler l'horloge interne. Le plus puissant des synchronisateurs du rythme biologique est la lumière. Nos yeux transmettent ce signal vers le cerveau qui commande notamment la sécrétion d'hormones spécifiques. Le fonctionnement de l'organisme, veille, sommeil, la température, les hormones, la mémoire. La lumière sert également à synchroniser le sommeil. La lumière perçue par la rétine est transmise directement au noyau du cerveau qui relaie l'information jusqu'à une petite glande, l'épiphyse. Quatrièmement, la lumière sert aussi à améliorer le moral. A priori, en 1984, les psychiatres américains, Norman Rosenthal, a démontré le lien qui existe entre la lumière et la dépression. Moins il y a de lumière, plus on déprime. Et depuis, les travaux ont postulé que cette action stimulante sur le moral agissait par l'intermédiaire de la sérotonine, un neurotransmetteur intervenant dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. Le recours à la luminothérapie contre la dépression saisonnière a été validé en 2005. Cinquièmement, la lumière diminue l'hyperactivité. Le manque d'intensité lumineuse pourrait expliquer un tiers des cas de troubles de l'attention et de l'hyperactivité chez l'enfant et jusqu'à 57% chez l'adulte. Sixièmement, la lumière servirait à mieux apprendre. La lumière constitue un stimulant puissant pour l'éveil et la cognition. Son impact sur les régions cérébrales nécessaires à la réalisation d'une tâche cognitive dépend de la couleur spécifique de la lumière reçue plus d'une heure auparavant. Selon l'Université de Liège et de l'INSERM, une exposition préalable à une lumière orange aide à mieux réaliser une tâche qu'une lumière bleue, celle des ordinateurs notamment. Vous êtes avertis. Septièmement, la lumière sert à soigner les maladies de la peau. Oui, la lumière soigne, photothérapie. Tout se passe, non pas sur la plage, mais à l'hôpital, dans des cabines spécialement mises au point. Voilà quelques bienfaits de la lumière. Et on utilise également la lumière dans nos mots, dans des expressions telles que « siècle de lumière » ou des citations. Alors, j'en ai trouvé une. Alors, s'il y a des Chinois parmi nous, ils pourront me dire si c'est avéré ce proverbe ou non. J'ai trouvé ce proverbe qui dit « S'il y a de la lumière dans votre âme, il y aura de la beauté en vous. S'il y a de la beauté en vous, il y aura de l'harmonie dans votre maison. S'il y a de l'harmonie dans votre maison, il y aura de l'ordre dans votre pays. S'il y a de l'ordre dans votre pays, il y aura de la paix dans le monde. » Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, en tout cas. Mais tout cela montre l'importance de la lumière. Et Dieu est lumière veut dire bien plus que tout ce que vous avez entendu. Dieu est lumière veut dire bien plus que ce que nous avons entendu. L'expression « Dieu est lumière » indique clairement que Dieu est la source de la lumière et que briller est une de ses caractéristiques intrinsèques. Ça fait partie de lui. Il est lui-même à la fois la source et l'émetteur de la lumière. Cette expression signifie également que Dieu est parfait, à la fois moralement, et au passage, je signale juste que nombreuses de nos lois aujourd'hui sont inspirées par la loi de Dieu. Dieu est pur, et intellectuellement, également, Dieu est parfait, et la création nous révèle, en tout cas, l'immensité de sa créativité, que Dieu est grand. Toute bonne chose, tout don parfait, découle de Dieu qui est le Père de lumière. Jacques 1, verset 5. Cela veut dire également que Dieu est vérité. Il est la vérité parmi toutes les vérités. Dieu est fidèle. On s'en fait beaucoup sur la science pour comprendre le monde. Ce que l'on peut constater cependant, c'est que les vérités scientifiques évoluent avec le temps, au gré des expériences, des constatations que font les scientifiques. Jadis, on disait que la Terre était plate. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'elle est ronde. Chez Dieu, la vérité demeure la même. Elle n'évolue pas. Dieu est immuable. Dieu est lumière veut dire aussi que Dieu est juste. Il est saint. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il ne tolère pas le péché. Bref, Dieu est lumière veut dire que Dieu est parfait dans tout, dans son amour. Et nous pouvons davantage faire connaissance de ce Dieu au travers de sa parole, la Bible, qui est sa révélation. Vous êtes peut-être des amateurs de l'art, vous aimez peut-être contempler des tableaux ou une œuvre. Mais je pense que si vous prenez le temps de rentrer, de vous instruire pour savoir comment l'œuvre a été faite dans le détail, vous serez davantage vraiment émerveillé par la beauté de cette œuvre. Et moi, en ce moment, je m'émerveille en tout cas de la création. J'essaie en tout cas de pouvoir mieux apprécier la création. Et j'ai fait l'acquisition de ce livre, un petit livre, dont le titre est « Même pas bête », qui fait en fait la comparaison des cinq sens entre l'homme et l'animal. Et je suis vraiment émerveillé en fait de lire ce qu'il y a dedans, parce que ça montre moi à la fois la complexité du corps ou de ce que Dieu a créé, mais également sa beauté. Si je vous dis par exemple, je pose une question, à votre avis, est-ce que la coquille Saint-Jacques a des yeux? Vous me direz quoi? Vous me direz quoi? Est-ce que la coquille Saint-Jacques a des yeux? Alors, votre réponse? Oui ou non? Non? Mais figurez-vous, elle en a 200. Elle en a 200, la coquille Saint-Jacques. 200 yeux, c'est impressionnant. Et c'est pareil, en tout cas, pour la Bible. La beauté de la Bible grandit à mesure que nous grandissons dans sa compréhension. Ce n'est pas de moi, c'est de Johann Wolfgang, un écrivain philosophe du 19e siècle. Mais la lumière, elle ne cohabite pas avec les ténèbres. Et ça, c'est le verset 5, 6 et 10 qui nous le disent. Je relis juste. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. S'il y a bien des choses qui sont irréconciliables et qui ne peuvent cohabiter, c'est bien la lumière et les ténèbres. Essayez de faire de l'obscurité dans une pièce et mettez la lumière et vous verrez que la lumière va tout de suite traverser l'obscurité. Et même dans le cycle de la journée, la lumière et l'obscurité ne cohabitent pas vraiment. La lumière et l'obscurité ne cohabitent pas. Et l'un finit toujours par prendre le dessus sur l'autre, en tout cas dans la journée. Soit le soleil de la journée ou l'obscurité le soir. Dieu réside dans la lumière, tandis que Satan demeure dans les ténèbres. La lumière est radicalement opposée aux ténèbres. Et l'enseignement que l'apôtre Jean dénonce dans notre texte et dans son épître est reporté dans les expressions qui sont là « si nous disons ». Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est ce que l'apôtre Jean veut dénoncer ici. En effet, il y avait à cette époque des enseignements qui soutenaient que le corps de l'homme était qu'une enveloppe où logeait son esprit et que les actes commis par ce corps ne pouvaient pas souiller et corrompre l'esprit de l'homme. C'est une théorie qui est séduisante. Tu fais le mal, mais ça ne te touche pas du tout. Mais qui ne reflète pas la vérité biblique. C'est une hérésie qui occulte que le péché n'est autre chose que la désobéissance à la parole et à la volonté de Dieu. Et quelle est-elle cette parole? Le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Il parle ici des gens qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, bien sûr. La parole de Dieu dit également que c'est du cœur, qui est un organe du corps, que viennent les mauvaises choses. C'est Jésus qui le dit dans Marc 7, 21. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et au verset 23, ça termine par « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Si on pouvait avoir une illustration, on pourrait reprendre juste le cas de l'œil. L'œil fait bien partie du corps. Il peut, par son activité, conduire au péché de la convoitise, par exemple. Il peut être une porte d'entrée du péché, une porte qui laisse une fenêtre de tir au diable. Jacques 1, verset 14-15, dit que « Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » La mort quand il n'y a pas de repentance, bien sûr. Et le roi David serait mieux à répondre, en tout cas, à ces hommes qui enseignaient ces hérésies, parce que lui connaît les conséquences, en tout cas, de l'action de notre corps. Il a vraiment expérimenté, et même amèrement, au travers du péché, de la convoitise de la femme du riz, qui l'a conduit à une escalade de péché, adultère, puis meurtre, en essayant de masquer sa faute. Et un autre organe du corps qui peut conduire également au péché, c'est notre langue, par le mensonge dont Satan est le père. Et Jésus dira que ceux qui mentent ont pour père Satan. Notre corps n'est pas... Il manque un bout. Ah. Bon, il y a une chose qui n'apparaît pas. Bon, je vais vous le dire. Notre corps n'est pas un accessoire sans valeur. Il nous est utile pour louer, adorer, honorer Dieu. Notre corps n'est pas un accessoire sans valeur. Il nous est utile pour louer, adorer, honorer Dieu. L'autre théorie avancée par les enseignants, les hérétiques, était du même acabit. Bien que reconnaissant l'existence du péché, ils disaient qu'ils avaient atteint un degré de spiritualité élevé, à tel point que le péché perlait sur eux, qu'il ne les impactait plus et n'affectait plus leur relation avec Dieu. Là encore, c'est une grave erreur, car la Bible est de nouveau très très claire. Même Jésus qui est humainement parfait et qui était de condition divine, n'a pas banalisé l'effet du péché. Il s'est au contraire préservé du péché. Nous avons vu là, il y a 2 semaines, lors de la prédication d'Isaac, qu'après son baptême, Jésus fut conduit dans le désert où il fut tenté par le diable. Et pendant cette période, il a refusé tout péché. Tous les pièges tendus par le diable pour le faire trébucher. Jésus déclara aussi durant son ministère que le diable n'a rien en lui. Et je ne sais pas si ces gens qui avançaient cette théorie d'une grande spiritualité au point que le péché perle sur eux pouvaient en dire autant que Jésus, que le diable n'avait rien en lui. Mais certainement pas. Dans notre monde, nous connaissons les droits d'auteur. Quand on réalise une copie d'une œuvre, d'un livre, sans avoir l'autorisation de l'auteur, On appelle cela le piratage ou le plagiat. Et le verdict est dans ce cas sans appel. Ceux qui sont pris la main dans le sac sont sanctionnés et payent des dommages et intérêts à l'auteur authentique. Il y a un peu de cela aussi quand on pêche, quand on emprunte les voies du diable. Une quelconque offense à Dieu, le Père. Le Dieu qui est lumière ne peut donc être en communion avec des personnes qui commettent délibérément le péché. Croire qu'une communion peut exister entre des personnes commettant de tels actes et Dieu, c'est méconnaître sa sainteté. Ésaïe, qui était un homme pieux, un prophète authentique que Dieu a même utilisé pour annoncer à des prophéties messianiques, dit ceci quand Dieu s'est révélé à lui. Ésaïe 6, les versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Je vais lire là, comme ça je suis sûr en même temps que vous. Je recommence. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les manteaux de porte se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Voilà un homme pieux à qui Dieu a choisi de se révéler, mais qui pourtant prend peur de cette intimité avec Dieu, tellement il est conscient de la sainteté de Dieu. Prétendre être en communion avec Dieu en pratiquant délibérément des actes de rébellion à Dieu, le péché, et donc mentir et ne pas pratiquer la vérité. La vérité, en effet, est que Dieu a le péché en horreur et il juge et condamne le pécheur. L'apôtre Jean déclare également au verset 7 que la communion fraternelle se vit dans la lumière de Dieu. Il ne peut y avoir de communion entre chrétiens et des personnes marchant dans les ténèbres, même si elles s'auto-proclament chrétiennes. Le jour viendra où les œuvres seront démasquées et jugées par le Père de lumière. Et cela fait penser à la parabole du blé et de l'ivraie que l'on trouve dans Matthieu 13. Deux plantes qui sont quasiment identiques, qui sont plantées et qui dans leur jeunesse, qu'on ne peut pas distinguer, qui se confondent. Mais avec le temps et par le fruit, on arrive à les dissocier. C'est aussi ce qui se passe entre la vraie communion avec Dieu et la fausse. L'autre erreur dénoncée par Jean est la prétention selon laquelle ces hérétiques seraient sans péché, qu'ils seraient exempts de la nature pécheresse que tous les hommes ont hérité. Ce qui est également une grave erreur. Car là aussi, la Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Psaume 14. Cette erreur rendrait également vain le sacrifice de Jésus, car Jésus est venu sauver les pécheurs. Nier et dire qu'on n'a pas de péché voudrait dire que le sacrifice de Jésus serait vain pour eux. Christ, pourtant, est bien le seul chemin par lequel on peut accéder à Dieu. C'est donc un non-sens. D'une manière générale, je peux dire sans détour que la doctrine du péché prônée par ces enseignements est inexacte, car le péché est vraiment une barrière à la communion avec Dieu. Ésaïe dira d'ailleurs que la main de Dieu n'est pas courte mais ce sont nos fautes qui nous cachent sa face. La vie dans la lumière, ou la vraie communion et ses effets. Versets 7 et 9. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Dans ces versets, nous voyons comment s'opère la communion avec Dieu et ses conséquences. Dieu est lumière et il est en communion avec ceux qui marchent dans la lumière, qui sont par ailleurs en communion également les uns avec les autres, comme le déclare le verset 7. C'est à cela que le chrétien est appelé. Le chrétien n'est pas moralement ou humainement meilleur que ceux dont Jean dénonce l'enseignement erroné. Il ne doit pas marcher selon sa propre lumière artificielle, faite de principes personnels pas du tout inspirés de Dieu. Mais il doit marcher dans la vérité, dans la véritable lumière vitale qui est celle de Dieu. Il mène sa vie à la lumière de la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est cette vérité qui est l'étalon. Dieu qui est immuable, saint, demeure dans cette relation le Dieu qui a le péché en horreur. Si cette communion avec l'homme est possible, c'est uniquement grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, comme le rappelle Jean dans le verset 7, et comme on l'a vu également dans la présidence de Valdo. Dans cette relation, l'homme doit faire preuve de sincérité, de transparence et de bonne volonté pour fuir le péché en marchant dans la lumière. Il n'est pas un client abonné au club péché à volonté. Et il faut souligner que nulle part dans le texte, il est dit que le chrétien ne commet plus de péché. Au contraire, le verset 7 est sans équivoque à ce sujet. Il arrive aux chrétiens de désobéir à Dieu, quand on lutte contre un péché, par exemple. En effet, tant que nous serons sur terre avec ce corps humain souillé et portant la tare du péché originel, le péché, hélas, continuera à se manifester en nous et il arrivera aux chrétiens de tomber par aveuglement, par ignorance, avoir pour conséquence de subir la sanction qui méritait nos fautes, le jugement de Dieu et l'éloignement de Dieu qui ne peut tolérer le péché. Et l'exemple de l'adultère de David est vraiment très parlant. Il est séduit et aveuglé par la beauté d'une femme. Il n'a pas vu venir le piège qui se referme sur lui. Et voilà qu'il commet l'adultère, puis le meurtre. Il y a cependant deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle est que Dieu pardonne les péchés. Dieu pardonne les péchés. C'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle est que Dieu a donné aux chrétiens son Esprit Saint, pour lui enseigner et lui rappeler ce qui est de sa loi, ce qui est de sa volonté. Tout comme Dieu a envoyé Nathan vers David pour lui ouvrir les yeux, pour qu'il se rende compte du mal qu'il venait de faire en allant avec la femme d'Uri et également en tuant Uri, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux. Et cette ouverture d'esprit doit nous emmener à la repentance, à la confession. Se confesser veut dire littéralement parler en accord avec. Et quand on se confesse, on exprime donc notre accord avec ce qui nous est reproché par Dieu ou son esprit. Et la confession, c'est un acte que l'on doit renouveler perpétuellement, car il y a une évidence implacable qu'on ne peut pas contester tous. Le chrétien n'est pas exempt de péché et Dieu ne tolère pas le péché. David, après avoir ouvert les yeux sur son péché qu'il venait de commettre, a reconnu ses fautes et a demandé pardon à Dieu au travers du psaume 51 que je vous invite à lire, juste les 6 premiers versets. Merci. Au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. C'est la démarche que l'on doit adopter quand on marche dans la lumière de Dieu. Confesser ses fautes, demander pardon, et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner en retour. Car c'est une de ses promesses faites déjà dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, dans Jérémie 3, 31, verset 34, B, merci. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ces promesses sont toujours d'actualité aujourd'hui, car Dieu est lumière, et il n'y a pas une ombre de changement chez lui. Et cette promesse s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Je vous laisse juste une illustration de ce qu'est l'action de Jésus qui nous justifie et nous sanctifie. Alors c'est imagé, hein, donc je fais appel à votre imagination en tout cas. Imaginez que vous vivez dans une contrée où la tenue naturelle est noire. Et le roi de cette contrée organise tout le temps des cérémonies festives, dont l'accès est réglementé par un code vestimentaire. Tunique blanche immaculée obligatoire. Cette fête, c'est toujours the place to be. Bon, les jeunes comprennent, l'endroit où on doit être. Une seule personne dans la contrée est capable de confectionner une telle tenue blanche. Et cette personne ou ce confectionneur, il offre gratuitement cette tenue. Et la particularité de cette tenue, de cette tunique, c'est que le confectionneur seul détient le secret pour laver la tunique. Si elle est sale, pas de pressing, vous êtes obligé de repartir vers lui. Et la rumeur court également que le confectionneur est avisé dès qu'une tache apparaît et se crée sur la tunique qu'il a confectionnée. On dit également que le roi ne tolère aucune tache sur la tunique pour entrer ou demeurer à la fête. La tunique doit être immaculée. Pour obtenir la tunique, vous allez donc voir avec humilité le confectionneur qui vous revêt une tunique blanche. Vous voilà prêt à accéder à la fête. Une fois à l'intérieur, la fête bat son plein et malgré toutes vos précautions, vous finissez par vous salir. Et là, vous rappelez, aucune tache sur la tunique, sinon c'est dehors. Que ferez-vous? Garderez-vous cette tache en prenant le risque d'être jeté ou vous rappellerez-vous plutôt du confectionneur qui, lui, est capable de laver la tache? C'est la seule option qui s'offre, je pense. Repartir voir le confectionneur afin qu'il nettoie la tache, la souillure sur votre tunique, qu'elle devienne de nouveau immaculée et que vous soyez admissible à la fête du roi. Le roi, dans cette illustration, c'est Dieu et le confectionneur Jésus-Christ. La tenue noire naturelle est notre état originel, teinté de péché. La tunique blanche immaculée, c'est le pardon que chaque personne qui a reconnu que sa manière de vivre n'était pas conforme à la volonté de Dieu, qui a reconnu ses péchés, ses fautes, qui croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour laver ses péchés et qui décide de changer de manière de vivre, ce qu'on appelle la conversion. Jésus lui pardonne alors ses fautes et lui donne une nouvelle identité. La personne, bien que coupable, devant Dieu, à cause de ses offenses, est déclaré juste par Jésus en vertu de son sacrifice à la croix. C'est la justification. Et la tache ou la souillure sur la tunique blanche, c'est chaque désobéissance au péché commis en tant que chrétien. Le lavage de la tunique blanche par le confectionneur sur la purification ou la sanctification par Jésus après confession des fautes commises en tant que chrétien. Toutes les fautes doivent être pardonnées, lavées pour demeurer en communion avec Dieu. Même les fautes que nous ignorons, celles que nous commettons par ignorance, elles doivent être pardonnées parce que Dieu ne tolère pas le péché. Pour finir, je rappelle juste que Dieu est lumière, c'est-à-dire qu'il est parfait en toutes choses. Il n'y a rien à ajouter à sa parole. Plus de 2000 ans après la mort et la résurrection de Jésus, les fausses doctrines sont toujours d'actualité dans ce monde. Mais une seule parole est vraie, c'est celle de la Bible, celle de Dieu. Et la communion avec Dieu n'est possible qu'en marchant dans la lumière. Je termine juste avec cet encouragement qui est dans Hébreux 4, le verset 13 à 16, qui dit « Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Merci. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun.